contre-taf.
À contre-taf.
Les jeunes veulent travailler, mais ça manque d'opportunités et il faudrait aussi de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires.
À contre-taf.
À contre quoi ?
À contre-taf, toutes les 4 semaines, le mardi, de 20h à 21h.
Ah là, c'est la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Toi, tu vas un peu à contre-taf. Sur Radio Campus 93.9 FM.
Faire le travail qu'on choisit et qu'on aime, c'est un luxe pour toute la vie. Toute la vie. Allez-y, faites ce que vous voulez faire. Lancez-vous.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il est 20h03 et c'est Francesca à l'animation. Vous écoutez Radio Campus Paris pour l'émission À Contre-Taf.
À Contre-Taf sur Radio Campus Paris.
Allez, va bosser, feignant.
Le boulot, c'est le boulot.
Bonne année, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue à Contre-Taf, l'émission qui remet le monde du travail dans le bon sens. Ce soir, nous entrons dans un secteur dont la réputation en matière de conditions de travail, de bien-vivre et de travail collectif n'est pas vraiment flatteuse, la restauration. Un secteur réputé, très exigeant, prestigieux selon l'angle, mais parfois complètement hors sol quand il s'agit de management. Des horaires à rallonge, des droits bafoués, l'humain relégué derrière l'efficacité et souvent derrière le profit. De la brasserie du coin aux tables les plus renommées, le traitement des équipes n'est pas forcément lié au nombre d'étoiles. C'est parfois même l'inverse. La question que je me pose, naïvement évidemment, savent-ils que leurs équipes sont composées des femmes et d'hommes qui contribuent à la pérennité de leur entreprise ? Savent-ils que ces femmes et ces hommes ont une famille, des enfants pour certains, qu'ils sont fils ou filles d'eux ? Ou épouse ou époux, amoureux et amoureuse, maman ou papa, frère ou sœur? Savent-ils que ces femmes et ces hommes ont une identité autre que celle d'être employés chez eux, qu'ils ont des rêves, une dignité? Et par quel droit, par quelle puissance, certains se permettent-ils de traiter l'autre au-delà de tout principe? J'ai envie d'aller voir ces patrons, responsables, managers, et leur poser quelques questions. Pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que cela vous apporte? Y a-t-il un plaisir à être comme ça? Voilà, nous ne faisons pas les choses pour déplaire, mais peut-être qu'il nous manque parfois un peu de formation, de confiance, d'accompagnement, de communication et aussi de considération. Ce soir, ça balance pas mal, alors chaud devant. À Contre-Taf, toutes les 4 semaines, le mardi, de 20h à 21h.
Sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Au programme de cette émission, des témoignages de ceux qui ont travaillé dans ce secteur. Ils et elles ont bien voulu raconter leur vécu, leur expérience. Et puis en deuxième partie, notre invité Quentin Chérier, auteur, chanteur, ancien salarié aussi de la restauration. Ils en ont fait quelque chose avec son ami William Carl de cette expérience. Ils en ont fait une chanson et cette première partie sera menée par Hugo. L'actualité du monde du travail, quelles sont les nouvelles du front, que se passe-t-il dans les entreprises françaises en ce début d'année et bien sûr, pour finir, sur les secteurs qui recrutent. Rubrique Innovation, Félix reçoit Maximilien Delongevial, fondateur de Campus Consulting, une plateforme pour étudiants en freelance. Et enfin, on terminera avec la chronique de Hugo. Car en amour comme au travail, il ne faut pas se quitter fâché. Vous écoutez À Contre-Taf et merci de votre confiance et de votre fidélité. À Contre-Taf, toutes les 4 semaines, le mardi, de 20h à 21h.
Sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Bonsoir Hugo.
Bonsoir Francesca, aujourd'hui on parle de la restauration, comme tu l'as dit dans ton édito. En effet, un secteur sous tension que j'ai moi-même pu expérimenter, que j'expérimente encore. Pour ça, on a recueilli plusieurs témoignages de personnes qui ont souhaité et qui ont accepté de parler, toutefois sans dévoiler leur nom. On commence tout de suite avec le témoignage d'un serveur.
J'ai bossé pour une guinguette en bord de plage en tant que barman. Le soir, on était juste après l'été, j'avais déjà fait une fin de saison chez eux l'année d'avant. Et ça s'était bien passé. Ils étaient vraiment dans l'ambiance classique. On est une team, une famille, on fait des activités ensemble sur les jours de pluie, on a un groupe WhatsApp en commun, etc. Et moi, j'étais quand même bien rentré dans le truc parce que le taf en lui-même me plaisait vraiment. Du coup, bah, de par mon investissement, je commençais à faire pas mal d'extras. Genre, je remplaçais ceux du matin qui étaient absents de temps en temps. Il y a des fois, je remplaçais le responsable du matin sur ses jours off et après, je faisais mon shift le soir. Puis, à un moment, le responsable, c'est un surfeur, il se blesse et du coup, il n'est pas là pendant tout le mois de septembre et les boss me proposent de le remplacer. Du coup, je suis en mode, bah, ok, je voulais pas trop faire ça, mais bon, si ça peut vous aider et que ça peut me faire gagner quelque chose. Ils sont là, ouais, t'inquiète, on paiera un peu au black, 100 ou 200 balles de plus, je sais plus, mais vraiment un truc pas ouf. Et j'étais en mode, bon, bah, ok, mais je suis jeune, mais si ça peut me responsabiliser et puis surtout soutenir un peu l'entreprise et tout, je suis chaud, tu vois. Et bref, je fais les remplacements, puis genre, au bout de, je sais pas, 2-3 semaines, les patrons, ils viennent me voir et ils me disent, bon, ça se passe trop bien, on est trop content et tout. On aimerait te proposer le contrat du responsable pour la saison prochaine et comme ça, bah, tu partiras avec les horaires du matin et puis on augmente ton salaire de 100 euros, 150 euros et tu fais les responsables du matin. Du coup, j'étais en mode, bah, le contrat de responsable, c'est la même chose que moi pour 3 fois plus de boulot. Déjà, sur ce point-là, je suis pas méga chaud. Puis surtout, je savais qu'à cette époque-là, je venais d'avoir mon PVT, je partais au Canada pour 2 ans. Donc, j'étais en mode, bah, déso, mais non, quoi, je suis pas chaud, quoi. Et direct, je sens que, genre, le tempérament, surtout du boss, change et il est en mode, ah, ok, t'es comme ça. Bah, je suis en mode, bah, ouais, désolé, mais genre, j'ai prévu autre chose, c'est ma vie, et je savais que je faisais qu'une saison chez vous, je comptais pas me responsabiliser dans un truc, machin, je suis jeune, etc. Et en fait, ils comprennent trop pas, et genre, au bout de 2-3 semaines, ils me proposent un nouveau contrat avec, je sais pas, 50 ou 100 balles d'augmentation, un truc un peu dérisoire, et je suis en mode, bah non, en fait, je vais pas quitter mon projet de partir au Canada pour 2 ans pour un contrat comme ça, quoi. Enfin bref. Du coup, ils me matraquent genre pendant un bon mois, et au bout d'un mois, ils ont compris. Mais genre, ils étaient frustrés qu'on refuse genre ce poste de rêve. Genre, personne ne refuse ça en bord de plage, nanana. Je suis en mode, bah ouais, bah, désolé, mais pour moi, c'est le cas, quoi. Du coup, à partir de là, ils ont complètement décidé de m'exclure de tout leur truc, genre truc de famille, sortie, boire des verres après service, etc. Et genre, au fur et à mesure du fin de la saison, j'apprends par mes collègues et les employés de l'entreprise qu'ils avaient eu le mot, genre, désolé, mais on doit plus te parler. Vraiment, on nous a mis des coups de pression, genre, si on te parle et tout, on va nous changer nos horaires, nos trucs et tout, rien n'ira dans notre sens, c'est la consigne et tout, genre. Et du coup, j'étais en mode, bah, dac. Et du coup, en fait, j'ai un peu compris ce que c'était la toxicité et vouloir à tout prix bah, profiter d'un jeune investi dans l'entreprise. Et voilà, et du coup, la saison s'est quand même archi mal terminée, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Et puis après, je leur ai dit que je reviendrai jamais, quoi. Et puis ça s'est terminé comme ça, quoi.
Le témoignage d'un jeune serveur qui a vécu une saison sous tension. Il nous parle de toxicité, je crois qu'on peut même dire harcèlement moral quand une personne est mise de côté comme ça, suite à un refus de suivre un autre contrat, ce qui est tout à fait normal et légal en soi.
Oui, alors c'est du harcèlement et ça a été reconnu justement à la Cour de cassation. Et c'est une forme de discrimination de retirer quelqu'un comme ça du groupe. Et ça peut aller jusqu'à atteindre sa santé mentale, ça démotive. Et pour aller encore plus loin, perdre la confiance en lui. Enfin, il faut s'imaginer de se mettre de côté comme ça, quoi.
C'est horrible. Et ne quittez pas parce qu'à la fin de l'émission, on vous donnera des numéros, des adresses pour aller justement se plaindre et peut-être amener aussi en justice ou en tout cas savoir quoi faire. On a également le témoignage d'une autre personne. Cette fois, c'est une serveuse qui nous parle de son travail dans la restauration et de pratiques qu'elle a pu observer et vivre.
Pendant un an, j'ai travaillé dans un restaurant qui était d'ailleurs plutôt connu dans Paris. Et alors, ce qui se passait, c'est que on avait deux patrons et il y en a un qui était beaucoup chez lui le soir. Et on savait qu'il avait accès à la caméra, mais ça, je pense que c'est légal de base. Mais en fait, il nous regardait en permanence quand il était chez lui. Et on le savait parce qu'il appelait tout le temps sur le fixe pour dire à un serveur ou enfin au responsable qu'un serveur avait laissé une table pas débarrassée, etc., etc. Mais des fois, c'était un peu plus glauque, comme par exemple un collègue qui était avec des potes à lui en terrasse. Et il appelait pour dire, ah, trop cool, il est avec des meufs, offre-lui des verres. Sauf que on se doute qu'il nous regardait tout le temps sur les caméras. Et ce qui est très, très glauque, c'est que ce patron buvait beaucoup d'alcool seul chez lui en regardant ses caméras et qu'il envoyait des messages assez étranges aux femmes serveuses le soir. Et voilà, il avait un accès non-stop. Il nous regardait tout le temps. Sur le coup, je pense qu'on en rigolait pas mal. parce que en vrai c'est marrant, enfin c'est, non c'est pas marrant, c'est savoir que t'as un patron alcoolique qui te regarde quand tu travailles, c'est en tant que femme, je pense plus que pour les mecs c'est assez glauque. Et je sais que maintenant il n'a plus accès aux caméras, et donc ça c'est plutôt bien. Et je me rends même pas compte de la part d'égalité ou d'inégalité là-dedans.
Une expérience d'une jeune serveuse qui nous parle de son travail et de l'usage de ses caméras par son patron qui apparemment buvait en même temps. L'usage des caméras est strictement réglementé, je crois, Francesca.
Exactement. Alors, un employeur peut installer des caméras, mais pas pour surveiller, comme le témoignage le disait. La vidéosurveillance est plutôt faite pour la sécurité des clients et des salariés. Alors, contre les vols, les agressions, évidemment, pour protéger les biens, ça c'est tout à fait normal, mais les dérives, est-ce que, en tout cas, ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est interdit, c'est filmer en permanence les salariés. Et parfois, je sais hein, que ça peut être orienté vers la caisse, donc on n'a pas le droit de filmer les vestiaires, les toilettes, les caisses ou des endroits cachés de l'entreprise.
Votre vie, c'est votre vie, même au travail. L'usage des caméras est donc réglementé. Rappelez-le à votre employeur s'il en fait usage. Il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de vous espionner sans votre consentement et de vous rappeler à l'ordre sur ce que vous faites pendant votre travail. C'est réservé pour la sécurité et donc pour un vol ou donc pour les clients, mais pas pour vous. On a un troisième témoignage. Cette fois, on retrouve un serveur. Et là, c'est un problème qui est contractuel.
J'ai un ancien collègue qui m'a contacté il y a quelque temps. On avait travaillé ensemble et il avait repris une affaire. Il avait besoin de quelqu'un pour les week-ends pour travailler. Et moi, à ce moment-là, ça m'allait très bien parce que je cherchais ce genre de poste un peu en extra. Et donc, je lui ai dit, OK, c'est bon. Au départ, je lui faisais confiance parce que c'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé et dont je ne me méfiais pas. Et donc, je travaillais que les week-ends pour lui. À la fin du mois, j'avais une fiche de paye. Et donc voilà, ça m'allait très bien. Et au bout de quelques mois, en fait, il avait besoin de quelqu'un à plein temps pour travailler du lundi au vendredi, 2 journées. Et moi, à ce moment-là encore, c'était vraiment un truc qui m'allait parfaitement. Et donc je lui ai dit, OK. Il avait besoin tout de suite, donc ça s'est tout de suite fait. Et donc voilà, j'ai bossé 2 mois comme ça avec lui. Et par contre, au bout de 2 mois, il est venu me voir. Un soir, il m'a dit, ouais, en fait, t'arrêtes la semaine prochaine parce que tu étais sous CDD et ton contrat, il s'arrête là et on ne peut pas le renouveler à cause d'une clause dans un contrat de gérance. Donc il m'apprend ça, sauf que moi, le contrat, en fait, j'ai jamais vu, j'ai jamais signé quoi que ce soit. Et il m'apprend qu'en fait, dans une semaine, en fait, je ne travaille plus là. Donc moi, je le prends super mal. Je comprends pas du tout parce que pour moi c'était parti. Je continuais à travailler avec lui jusqu'à ce que ça s'arrête, quoi. Mais pas comme ça en tout cas. Et donc je prends très mal. Et puis je me retourne. Je sais pas trop quoi faire dans un premier temps. Et donc je me dirige en fait vers les syndicats. Les syndicats, pour le coup, ils m'aiguillent un petit peu sur un petit peu mes droits, sur ce que j'ai à faire. Et donc je réclame des indemnités par rapport à ce litige. Ça a pris quelques temps, quelques semaines, mais finalement, vu qu'ils étaient complètement en tort, ils ont fini par me donner ce que je leur réclamais.
Un petit mot avant de foncer dans le problème. Il nous parle de syndicats. Sachez que pour les syndicats, vous avez le syndicat Sud, S.U.D, dans le 20e à Paris, 25 rue en Vierge. Également, si vous ne savez pas trop où aller, il y a la Maison des Métiers avec tous les syndicats représentés à l'intérieur. Vous avez forcément un volontaire ou une personne qui est là et qui va vous indiquer vers quelle structure syndicat aller afin de vous conseiller. N'essayez personne, il y a des numéros de téléphone, il y a des personnes physiques. Pas de peur, vous pouvez être accompagné, vous pouvez même porter plainte si vous le voulez et être accompagné. Au niveau du contrat de ce jeune homme, Francesca, on doit signer un contrat à un moment, non? C'est obligatoire?
Alors oui, à l'embauche, on doit avoir un contrat signé, évidemment. Et à défaut, s'il n'y a pas de contrat, au bout de 48 heures, c'est revalorisé en CDI. Voilà, ça c'est le code du travail.
Et est-ce que mail vaut contrat? Je crois quand il y a une trace écrite, ça peut valoir contrat.
Oui, dès lors que, bah, déjà, dès lors que la personne est en activité, donc, et s'il a fait des heures, Et ça aurait pu être dit verbalement, mais en tout cas, pour fixer le salaire, pour les horaires, etc., il doit avoir un contrat. Ça, c'est obligatoire, comment, entre ce qu'il doit faire, etc. Et si jamais, à défaut de contrat, même si c'est un mail, ce n'est pas suffisant, hein, il faut quand même qu'il y ait des clauses, etc., à défaut de contrat, 48 heures, c'est un CDI. Donc, vous pouvez tenter un prud'homme s'il n'y a pas de contrat au bout de 48 heures et qu'on ne vous garde pas pour réclamer votre CDI ou les indemnités.
On sait que le mot prud'homme fait peur. À défaut, vous pouvez aller directement aller voir les syndicats qui vous accompagneront. Ce sera anonyme au début. Et si vous souhaitez aller en justice, vous pouvez le faire également en étant accompagné. À mon tour de témoigner, parce que vous êtes des jeunes, des étudiants qui nous écoutez, et quand vous arrivez en restauration, on peut des fois faire des entourloupes, comme par exemple les heures supplémentaires. Et oui, en restauration, des fois, on nous demande de faire des heures supplémentaires, donc plus de temps qu'on travaille. Si vous avez un contrat de 39 heures, 35 heures, et que vous dépassez, des fois, le patron se permet de vous dire « je te paierai en cash ». Et comme ça, ce sera bien pour toi. Ce sera au même tarif que je te paye toi. Je te rajoute, si tu veux, 1 euro ou 2 euros. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles. Les heures supplémentaires à votre temps de travail sont majorées. Vous le rappelez à votre patron et vous lui dites qu'il y a des lois et qu'il y a des majorations qui sont écrites. Francesca, est-ce que tu as le détail des majorations?
Oui, alors, comme vous avez pu le dire, donc il y a les heures supplémentaires ne sont pas rares évidemment dans la restauration, mais c'est assez cadré. Alors, vous avez des contrats, comme disait Hugo, donc soit 35 heures ou 39 heures. En tout cas, entre le 35 et le 39, c'est déjà des heures supplémentaires. On est à 10% de majoration entre la 36e et la 39e heure. Si l'employeur préfère opter ça pour les repos compensateurs, celui-ci donc, sera de... Attention, alors, on avait dit que c'est plus de 10% entre le 36e et 39 heures, c'est... 20% si on fait au-delà de 40 heures, ça je préfère le préciser.
20%
entre 40 heures et 43 heures, et c'est 50% à partir de la 44e heure.
À retenir absolument. On vous rappelle les deux structures, la Maison des Métiers et sud-s.u.d. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez être accompagné. Une situation illégale ou anormale est à signaler. Vous avez des droits, faites-les valoir.
Exactement. Donc le code du travail, il est régi de toute façon, enfin pour encadrer tout votre environnement, contexte de travail. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on disait ?
Qu'est-ce qu'on disait ? On disait aller voir des syndicats.
Oui, alors, il faut aller voir les syndicats. Vous avez des syndicats pour tous les secteurs. Là, on parle de la restauration. Mais donc, tout à l'heure, Hugo vous a donné le Sud. Je crois que c'est le syndicat du Sud qui est ici, dans le 3e arrondissement. Et vous pouvez les contacter. Ils vont vous accompagner. Ils vont vous aider parce qu'on ne peut pas toujours tout de suite
partir.
Dans
le 20e, Francesca, le Sud.
Non. Ici aussi. Voilà, maison des métiers, maison vous avez aussi, donc dans le 3e arrondissement, juste à côté de la radio. Tout à fait. Et c'est pas d'autres syndicats de la restauration qui peuvent vous représenter. C'est hyper important avant de. Enfin, les poursuites se font en escalade, hein, attention, on fait déjà à l'amiable, on a une conciliation, une médiation avant, et ensuite après, évidemment, si on ne trouve pas de solution, on va un peu plus loin. Donc, alors là, on va faire une petite pause musicale. On va écouter tout de suite, avant de reprendre la deuxième partie, on va écouter Chris Brown et Troubled Waters. À tout de suite.
Just don't get it. I just like porcelain, like ocean waves. Your mind's amazing, I cannot be your everything when we still clouded up your patience.
Chris Brown avec le titre Trouble Waters. Il est 20h24 et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. À Contre-Taf, toutes les 4 semaines, le mardi de 20h à 21h.
Sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Et pour cette deuxième partie, Hugo, je crois qu'on a un invité.
Oui, je crois qu'on reçoit un chanteur. Bonsoir Quentin Charrier.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Merci à vous d'être venu chez nous. Avec William Carl, vous avez sorti un album, La Coupure, qui est sorti le 25 décembre, avec notamment un titre qui nous a fait tiquer ici. Il s'appelle La Danse de l'Accident et il fait référence à la restauration. Vous l'avez écrit durant votre travail en restauration, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Et durant tout ce titre, vous parlez du fait de vouloir un accident du travail. Pourquoi ?
Parce que je travaillais dans un restaurant dans des conditions qui s'étaient dégradées petit à petit. Et je voyais mes collègues aussi se dégrader petit à petit. Et je voyais des petits accidents arriver, des choses qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille sur le fait que je pense que quand on est à bout dans la restauration, on peut avoir envie parfois de se faire un petit bobo qui va nous permettre de souffler, de respirer.
Et alors, comment est-ce que la restauration, ça devient une chanson pour vous ?
À la base, c'est de la poésie, parce que je suis photographe de photographie de rue. Voilà, j'ai édité un livre de photos, et là, je ne pouvais pas prendre de photos. Donc, le texte s'est imposé, et puis j'ai mis ça dans un tiroir, et j'ai un pote qui fait de la musique, qui s'appelle William Carl, et lui, il avait de la musique dans son tiroir. Donc, on a regroupé tout ça.
Et quels sont alors les défauts de ce milieu ?
Oh là !
Ils sont nombreux.
Ça fait très long, là. Ils sont nombreux. Non, mais j'ai la chance. Mon père a travaillé dans la restauration. Il a monté plusieurs affaires. Donc, j'ai vu les deux côtés un peu de ce métier-là. Et puis, il a fait ça il y a déjà un peu de temps. Donc, à une époque où c'était un petit peu différent, où on n'était pas jugé avec les notes de Google. J'ai vu un peu l'évolution de la restauration et j'ai vu que ça se déshumanise gentiment. Oui.
Est-ce qu'il y a quand même des bons côtés dans ce milieu ?
Oui, quand il y a une bonne équipe, bien sûr. On disait, quand ça marchait bien dans le restaurant, on disait, on n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on rigole ? et il y avait une part de vérité, bien sûr.
Est-ce que c'est un milieu que vous recommanderiez à un ami qui cherche du travail ?
Oui, s'il a pas mal au dos, s'il est sportif un petit peu, et si c'est temporaire, ouais, c'est une bonne expérience.
La restauration, c'est aussi le monde de la nuit. En quoi ce monde est-il inspirant, positivement ou négativement d'ailleurs ?
Alors oui, là c'est différent. Moi j'ai bossé aussi en bar, pas forcément bar de nuit, mais en bar c'est différent de la restauration, je trouve. C'est pas les mêmes clientèles, c'est pas le même esprit, mais beaucoup de gens qui travaillent dans la restauration finissent dans les bars, en client ou, ou en barman.
Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on a, on a servi des gens toute la journée et on veut être ce client-là, vous pensez, en finissant le travail ?
Oui, il y a un peu de ça, et puis je pense que petit à petit, on a aussi envie d'oublier, donc boire, fumer, il y a beaucoup d'addictions dans ce métier.
Est-ce qu'on peut travailler dans un restaurant qui respecte totalement les règles ?
Mais des fois même les restaurateurs connaissent pas bien les règles non plus, mais les patrons les connaissent pas toujours très bien, comme on a pu le voir dans d'autres émissions que vous avez fait. On peut bien travailler dans la restauration. Encore une fois, c'est sur la durée, mais qu'on soit directeur, sous-directeur ou même juste petit employé, je crois qu'il y a une usure. C'est un métier qui est fatigant.
Il y a une usure, en effet. On vous disait beaucoup de comportements addictifs. Est-ce que être face à ces addictions-là, on est en relation avec l'alcool constamment, face à des gens qui peuvent être ivres aussi, ça n'aide pas, j'imagine.
Oui, alors encore une fois, dans la restauration, le petit restaurant familial, on n'a pas trop ce problème, d'autant plus que moi, je suis un garçon, donc je n'ai pas, comme mes collègues féminines, des réflexions graveleuses et ce genre de choses, parce que malheureusement, ça, c'est encore fréquent. Oui, après, les bars de nuit, c'est encore un autre monde. On peut éviter ça. Après, je crois que de manière générale, tous ceux qui sont en cuisine sont assez préservés de ce genre de soucis.
Et pour autant, il y a peu de femmes en cuisine.
Oui, peu de femmes. C'est vrai que c'est un métier d'homme, c'est un métier d'émigré de plus en plus. Oui, effectivement, c'est un métier qui est plutôt masculin. Donc, quand on est une femme dans la restauration traditionnelle, je pense qu'il faut savoir s'imposer, effectivement.
Vous dites un métier d'immigré. C'est vrai qu'à Paris, on observe beaucoup de gens immigrés en cuisine. Est-ce que ça peut aider le patron à ne pas respecter les règles et à un peu entourlouper ses employés ?
Pas qu'à Paris, à Vierzon aussi. À Vierzon, mon oncle a 3 ou 4 employés afghans et il va se battre à la préfecture pour avoir les papiers. Donc non, effectivement, il y a des patrons qui abusent et puis il y a des patrons qui se battent pour leurs employés, surtout quand on est dans des lieux où il y a peu d'employés, où les gens parlent entre eux, les choses se savent, donc on sait si on a un bon patron ou si on n'a pas un bon patron.
Qui plus est, on dit qu'on a du mal à trouver du travail, mais la restauration est un secteur sous tension et qui recrute constamment.
Oui, bien sûr.
Il y a toujours un manque de bras.
Il y a toujours moyen de... Voilà, si on est en difficulté et qu'on présente bien et que voilà, on peut travailler dans la restauration sans aucun souci.
En quoi la restauration, elle a influencé votre musique ? Est-ce qu'on peut y retrouver, à part la danse de l'accident, est-ce qu'il y a quand même des choses que vous dites que vous n'auriez pas écrites sans la restauration ?
C'est la coupure, c'est le nom de l'album. Donc la coupure, c'est cette pause qu'on a dans la journée qui est très particulière et qui n'existe pas dans beaucoup de métiers. En général, on fait sa journée, je dirais. Et dans la restauration, il y a cette espèce de coupure dans l'après-midi qui est un peu bizarre. Qui n'est pas assez longue pour qu'on puisse aller au cinéma, qui est trop courte pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc ça aide à écrire. Ça permet de coucher sur le papier certaines choses pendant cette petite pause.
Et pour autant, on a du mal à déconnecter de son métier quand on a une coupure aussi fine, aussi petite.
Oui, on pense beaucoup au travail. J'ai fait pas mal de métiers différents dans ma vie, mais c'est un où j'ai le plus rêvé de mon travail.
Tiens donc, qui plus est,
on ramène du travail à la maison en quelque sorte.
Et oui, même il y a ce qu'on appelle le rush, c'est-à-dire le service avec beaucoup de monde. Et moi j'ai fait de la restauration aussi de nuit. Quand on rentre chez nous, il nous faut environ une heure et demie pour juste descendre un petit peu du rush et pouvoir peut-être s'endormir.
Oui, je pense qu'il y a une dose d'adrénaline qui peut être assez forte. Oui, effectivement.
Votre album La Coupure est sorti le 25 décembre. C'est Quentin Cherrier et William Carr. Où est-ce qu'on peut le retrouver cet album ?
Alors pour l'instant sur Bandcamp, qui garantit de la musique sans IA, ce qui nous paraissait important, et puis à suivre sur les plateformes bien entendu, et en CD, cet objet un peu bizarre que personne n'achète, mais qui permet d'écouter l'album en entier ou de faire fuir les oiseaux dans les arbres.
Est-ce que vous avez des concerts de prévu, des dates pour l'instant ?
Non, pour l'instant, aucune date de prévue parce que mon collègue William est du côté de Saint-Malo en Bretagne. Moi, je suis en Touraine. Et on a fait ça comme une capsule, un petit peu comme quelque chose de un petit peu cinéphile, presque. Donc, avec plein de petites histoires. Et on a des retours, bien entendu, on se mettra à travailler une version scénique.
Bien sûr. Alors, aux amateurs de poésie, aux amateurs de beaux mots, allez écouter La Coupure sur Bandcamp. C'est sorti le 25 décembre par Quentin Cherrier et William Carr. Pardon. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Et tout de suite, on va écouter cette poésie, La Danse de l'Accident. Et c'est Quentin Cherrier et William Carr.
Accident. Oh, pas un truc grave, une erreur de débutant. Le bout des doigts en carpaccio dans la trancheuse à jambon. Une glissade dans les escaliers. Une erreur de fatigue pour avoir des jours de repos. Manger des figues, traîner au bistrot, vivre un peu plus haut. Après 3 heures de route en trop, j'ai envie de planter une bagnole de fonction, avoir la Minerve en option. Rester allongé, un amoureux, avec les restes de moi-même, et débrancher la turbine à folie rationnelle. J'ai besoin d'un médecin sympa, qui fait croire à mon boss que j'ai un ventre délicat, une usure du cervelas. Je suis au bout de la boue, envasé de bien vouloir faire et de vouloir bien faire. Presque figé, coincé dans la mélasse. De Pompéi. Le corps en éraflure doit prendre sa cicatrice, sa sciatique, son ulcère, doit éponger la retenue noyée tout cramée. Pâte à modeler en lambeaux, genoux délabrés, chaleureuse jointure inflammatoire. Petite migraine avec le sourire en coin. Patron malsain, comprend pas la fragilité de l'escabeau. Croit que c'est l'objet qui casse, pas l'humain. Lorsque la reconnaissance n'a plus de cœur. Chaque morceau de doigt coupé, chaque ulcère, chaque accident, ce n'est que la vétusté d'âme d'un humain qui en fait travailler un autre sans le respecter.
Nous venons donc d'écouter Quentin Cherrier et Carl, William Carl avec leur titre La danse de l'accident. Tout de suite, l'horoscope des métiers. L'horoscope des métiers.
C'est quoi ça ?
Salon et les secteurs qui recrutent. Salon et secteurs qui recrutent, mais aussi les actualités du monde du travail. Depuis lundi 19 janvier, les salariés de la polyclinique de Picardie sont en grève. Ils réclament des hausses de salaire et des recrutements immédiats pour faire face à un sous-effectif jugé dangereux. Selon les représentants du personnel, les conditions de travail se sont fortement dégradées. Surcharge, fatigue, turnover important, 40 démissions auraient été enregistrées sur un effectif d'environ 220 salariés. Les grévistes dénoncent un management qu'ils qualifient de toxique et alertent sur les risques pour la qualité des soins. La direction, de son côté, évoque un contexte économique contraint. Le mouvement se poursuit. Étude. Selon une étude de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, publiée ce mardi, l'attractivité du management diminue nettement chez les cadres en France. Seulement 34% des cadres non-managers souhaitent aujourd'hui accéder à des responsabilités hiérarchiques contre 42 en 2022, soit une baisse de 8 points en 3 ans. Cette chute est encore plus marquée chez les moins de 35 ans où l'envie de devenir manager est passée de 63 à 47% sur la même période. Jeudi 19 février, place à Paris pour l'emploi, l'un des plus grands forums de recrutement francilien, CDD, CDI, alternance, plusieurs milliers de postes proposés. Donc Paris pour l'emploi des jeunes 2026, c'est à Paris Montreuil Expo, 128 rue de Paris, donc à Montreuil dans le 93, jeudi 19 février 2026, de 10h à 17h, entrée gratuite. Et tout de suite, on va passer sur l'innovation.
La contre interview innovation métier.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ça innove à contre taf.
Sûr de travailler pour vous, on est heureux comme des fous.
Enfin, un secteur peut-être on va être heureux. C'est avec Félix qui va vous faire découvrir une pépite Campus Consulting et en présence du fondateur Maximilien Delangeauvial. Bonsoir Félix.
Bonsoir Francesca. Bonsoir Maximilien Delangeauvial, merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, avant qu'on revienne sur Campus Consulting, donc qui est une entreprise qui met en relation des étudiants et des entreprises pour des jobs dans le domaine de la communication, finance ou marketing, je vais vous présenter rapidement. Donc, vous êtes le fondateur de cette entreprise, mais vous avez aussi, juste avant, travaillé sur Maximus Campus, que vous avez également fondé, une entreprise qui fournissait des produits publicitaires, goodies pour les étudiants et leurs projets universitaires. Vous avez vous-même été diplômé de l'EM Business School, l'UM Lyon Business School, pardon. Et quand vous y étiez responsable des associations de l'école là-bas. Et du coup, il y a une première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous donne envie de rester au contact du monde d'étudiants depuis que vous êtes diplômé?
Oui, bah en fait, les gens croient pas à mon âge, parce que j'ai presque 40 ans et en fait, je suis resté un étudiant un peu éternel. C'est vrai que j'étais diplômé en 2010, j'ai travaillé 5 ans dans une grosse boîte de conseil quand je suis sorti de l'école, et puis finalement, depuis, je suis avec les étudiants et dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que même quand j'étais en école de commerce, j'étais assez impliqué dans la vie associative de l'école. Donc, ouais, j'ai toujours aimé ce contact avec les étudiants parce qu'il y a cette. Un peu cette insouciance, l'idéalisme, etc. Et voilà, donc peut-être un peu un syndrome Peter Pan, quoi.
Au sein même de Campus Consulting, vous travaillez avec des étudiants qui sont chez vous ou pas ? Enfin, il y en a qui travaillent avec vous ?
Alors, chez Campus Consulting, on est une équipe de 5. On en a 2 qui sont fraîchement diplômés. Et sinon, notre quotidien, c'est les étudiants. Donc, tous ceux qu'on fait travailler auprès des entreprises, c'est tous des étudiants.
Et donc justement, présentez-nous Campus Consulting, qu'est-ce que c'est exactement ?
Donc en fait, Campus Consulting, c'est une plateforme qui allie donc la tech et une notion de service. C'est, l'idée, c'est de mettre en relation les étudiants les plus motivés, les plus sérieux, les plus curieux, avec les entreprises, principalement des TPE-PME, et, de manière à ce qu'il y ait des missions qui s'enclenchent entre eux de manière très simple et sans aucune démarche administrative.
Et justement, pour un étudiant là, qui nous écoute concrètement, comment ça se passe pour lui, pour s'inscrire sur la plateforme, ensuite rentrer en contact avec les entreprises, comment il doit procéder ?
Ben en fait, l'étudiant, il va sur la plateforme, il postule dans la rubrique étudiante et en fonction de sa formation, que ce soit marketing, com, développement commercial, finance, il s'inscrit, il y a un process de sélection et des entretiens avec nos équipes. Et donc, on va faire le point sur ce qu'il a fait, ce qu'il aime faire, ce qui suit en cours, quel stage il a fait. Et en fait, moi, ça fait des années que je suis avec les étudiants. Donc, on va tout de suite dans le fond et on va voir sur quoi on peut capitaliser et sur quoi on peut l'aider à grandir. Et après, une fois qu'il accepte notre mode de fonctionnement, qui suppose beaucoup d'écoute, de disponibilité, d'honnêteté, il a sa fiche qui est en ligne et n'importe quelle entreprise peut venir. Alors l'entreprise aussi passe dans nos filets puisqu'on n'accepte pas n'importe quelle entreprise, donc on connaît nos clients. Et ensuite, il a accès donc à un vivier d'étudiants qui ont envie de bosser en marge de leurs études. Et voilà, ceux qui sont trop fatigués par la restauration, justement, il y en a pas mal qui viennent chez nous parce qu'ils se disent « je vais être payé un peu mieux en lien avec mes études ». Puis il n'y a pas assez de stages, il n'y a pas assez d'alternance, tout ça on sait que c'est galère. Donc,
Et ils sont combien les étudiants déjà sur votre plateforme?
Alors aujourd'hui, on a 1500 étudiants sur la plateforme. Sur nos newsletters, réseaux sociaux, on en a plus de 4000. L'objectif, c'est surtout de garder des étudiants qui ont vraiment envie de découvrir le monde de l'entreprise, participer à des projets souvent en croissance, soit pour des TPE, PME traditionnelles, soit pour des startups qui sont en croissance. Les étudiants doivent être hyper... En fait, le but de Campus Consulting, c'est de faire simple. Et tout est galère, tout est compliqué. Et en fait, la relation humaine et une discussion avec un étudiant qui a envie de bosser, et ben en fait, nous, on se rend compte que quasiment à chaque fois, ça marche.
Et donc là, on est sur du entre guillemets job étudiant, c'est-à-dire, ou même pas du tout entre guillemets. C'est genre, ils sont sur la plateforme pour avoir des missions ponctuelles, ou est-ce qu'il peut y avoir un vrai engagement plus pérenne sur le long terme, ou est-ce que par exemple, il y en a qui peuvent décrocher des contrats longue durée grâce à ça
Oui, alors on dit job étudiant plus, qualifiant. En fait, le job étudiant, on pense beaucoup au job manuel. Là, c'est des jobs qui sont en lien avec leur formation académique. Donc souvent, c'est à distance, c'est en remote. Donc si la boîte est dans la même ville, ils peuvent se voir, mais c'est plutôt à distance. C'est des missions de communication, de prospection commerciale, d'études de marché, de finance, de graphisme, etc., ou de tech, de développement. Excuse-moi, j'ai perdu le fil.
Oui. Mais ils sont en freelance.
Voilà, donc en fait, ils sont sur des. Au départ, ça part de. Voilà, on a besoin d'aide sur un sujet. Souvent, ça part sur 4-5 heures. Et puis finalement, c'est des sujets qui reviennent. Donc en fait, l'étudiant, il va dire bah voilà, moi je suis dispo 5, 10, 15 heures par semaine. L'entreprise, elle dit bah voilà, on va partir sur 3 mois. Et en fait, on a un système de crédit d'heures qu'on peut mettre sur les fiches étudiantes. Et en fait, à partir de là, ça enclenche automatiquement une contractualisation que nous, on supervise. Et l'étudiant peut travailler, on en a, ça fait 2 ans qu'il travaille pour le même client, 10 heures par semaine.
Okay.
Et on commence, là ça fait 3 ans qu'on est vraiment connu au niveau national, et on a des missions qui ont permis de trouver un stage. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont un stage à faire. Mmh. Et donc en fait, si ça se passe bien, bah, la boîte dit bah, « t'as pas un stage à faire là dans 2 mois ?» Bah si, bah, si ça se passe bien, on va te prendre en stage. Et donc en fait, ça part en stage derrière. Et puis ceux qui sont en fin de parcours, c'est aussi un moyen de, s'ils n'ont plus de stage en stock, bah de trouver encore des boîtes, de se faire tester. Et certains ont trouvé leur premier CDD, CDI comme ça.
Vous avez un chiffre sur ça justement, les étudiants qui ont commencé avec Campus Consulting et ont fini en entreprise à longue durée?
Ouais, alors là, vu que ça fait 3 ans, il fallait quand même qu'il y ait des étudiants qui aient fait quelques années ou quasiment tout leur parcours académique aussi avec nous. On en a une dizaine aujourd'hui qui ont trouvé un stage, une alternance ou un job. Et on espère bien que ça sera vraiment la cerise sur le gâteau derrière. Même si à la base, l'idée, c'est de dire bah, c'est du soutien ponctuel. Si ça dure, tant mieux. Si ça devient un stage, c'est encore mieux. Et si ça devient un job, bah, c'est encore mieux.
Et il n'y a pas un risque, justement, que les entreprises en fait, se tournent vers ce type de contrat ou d'étudiants à distance qui vont faire des missions ponctuelles, et plutôt que de prendre un employé, et même du coup, ces étudiants fraîchement diplômés, plutôt que de les prendre pour des contrats longue durée, vont plutôt se baser sur ça, des courtes missions?
Non, parce qu'en fait, nous, on paye. Les prix sont. Enfin, les tarifs des prestations sont plutôt élevés. Et donc, en fait, ça pousse absolument pas à remplacer un stage, une alternance ou un jeune CDI en taux horaire. On est plus cher. Sauf qu'en fait, nous, on apporte énormément de flexibilité. L'étudiant, ça lui fait un job étudiant qui est très bien payé. Par exemple, en moyenne, les étudiants gagnent 20 à 25 euros de l'heure. Donc, c'est des jobs assez intéressants pour...
Qui fixe les prix? Parce que oui, j'ai vu entre 15 et 25.
En fait, les étudiants, eux, ils fixent leur prix sur 3 taux, 15, 20 et 25. Ensuite, nous, il y a une commission qui s'applique pour rémunérer la plateforme. Et puis, tout le travail de recrutement, de suivi, de préqualification. Mais grosso modo, en fonction des durées de mission, les commissions sont variables. Et donc, un client va payer entre... 20 et 30 euros maximum de l'heure, ce qui est quand même beaucoup plus cher qu'un stage, une alternance ou même un jeune diplômé. Donc, dès qu'ils peuvent passer sur un stage, une alternance ou un jeune diplômé, ils le font tout de suite parce qu'on est beaucoup plus cher.
Et les étudiants ont leur mot à dire pour fixer le prix de rémunération ?
Alors nous, on leur, ce qu'on propose, c'est quand ils arrivent, on démarre au bac plus 3. Donc il faut qu'ils aient déjà eu une petite expérience professionnelle. Et donc quand ils arrivent au bac plus 3, on leur demande d'être sur un taux à 15 euros, s'ils sont en master 1 à 20 euros, s'ils sont en master 2 à 25 euros. Après, il peut y avoir une négociation entre le client et l'étudiant, mais il faut que ça reste sur ces trois paliers. Et quand nous, il y a la possibilité que cette mission dure dans le temps, on est très conciliant sur la partie commission pour sécuriser le job pour l'étudiant.
Et comment, donc comme vous avez dit, ils sont plus de 1600 sur la plateforme, comment on fait pour se démarquer quand on est étudiant parmi toutes ces personnes qui cherchent un emploi, enfin un job?
Alors, en fait, on a 5 grands domaines de soutien pour pas que justement il y ait trop de monde, on ne laisse qu'une centaine d'étudiants en ligne chaque semaine, de manière à ce que ça tourne. Donc, en fait, ce n'est pas tout le temps les mêmes étudiants qui sont en ligne. Et quand le client choisit une catégorie, un niveau d'expérience, donc licence 3, master 1 ou master 2, et une disponibilité immédiate. Par exemple, s'il y en a, ils sont disponibles, mais dans 3 semaines, dans 1 mois, il y en a, ils sont plus pressés, donc ils veulent que les immédiates. Et donc, en fait, il y a un système de filtres. Et dès que vous avez mis les filtres, il reste en général 3 profils. Et en fait, les clients, ils vont discuter avec les 3 profils, ils vont souvent rencontrer les 3, se faire son avis. Et c'est là où, en fait, l'étudiant, il va falloir que nous, on a fait tout ce qu'on peut. Donc, c'est là où c'est lui, où c'est son caractère, c'est son entretien en visio avec le client qui va faire la différence. Et après, sur les fiches, on les aide. Ils ont des rubriques pour se différencier. Des foires aux questions, pourquoi travailler avec moi, qu'est-ce que j'ai fait, en quoi je suis différent. Et en fait, tous les mois ou tous les 2 mois, en fonction des missions qu'ils ont faites, on les aide à revaloriser leurs fiches. Donc après, chacun va avoir un peu sa singularité, etc. Et puis, ça va jouer aussi au feeling après, pendant les entretiens, entre le client et l'étudiant.
Oui, non, mais je voulais savoir, généralement, ça se passe bien ou est-ce que vous avez déjà eu des retours employeurs quand leur sera dans un cas où ça se passe mal? C'est déjà arrivé?
La seule chose qui peut mal se passer, c'est l'étudiant qui est d'un coup finalement plus dispo.
D'accord.
Et donc, s'il est plus dispo, c'est en général... ses dates de partiel ont changé, il a trouvé le stage de ses rêves. Et dans ce cas-là, nous... On intervient, on essaye d'être prévenu en amont. On va gérer avec l'étudiant la passation du dossier avec un autre étudiant qui est en attente de mission, de manière à ce que pour le client, après, ça soit fluide. Donc ça, c'est des choses où on a rodé au maximum les risques. Et si un étudiant n'a pas une disponibilité de au moins 10 heures semaine sur les 3 mois qui viennent, il ne peut pas se mettre en disponibilité immédiate.
D'accord.
De manière à ce qu'il y ait un peu cette... Mais il n'y a aucun engagement, en fait, des deux côtés. C'est-à-dire que le client, s'il veut arrêter, il peut. L'étudiant, s'il veut arrêter, il peut. Et nous, on va essayer de gérer un peu la diplomatie entre les deux, quoi.
D'accord. C'est la fin, c'était très passionnant. C'est la fin de cette interview.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Maximilien. Alors, Campus Consulting, on peut vous retrouver sur votre site internet.
Oui.
Et ensuite, Instagram aussi, j'ai vu. Et LinkedIn, vous pouvez aussi être contacté.
C'est ça, et TikTok.
Alors, on va faire une petite pause musicale avant de reprendre. Et on va écouter Kida avec le titre Low.
Mama go down low. Every time you see me dancing, mama go down low, low, low. Hotter than a pin on ganja. Say me ready, pop, 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 yeah, yeah. Not a girl, where you come from? Hey, I see, she come from London. Oh, summer to fish finder, summer to fish finder. Oh, hey, gotta give you sado, gotta give you sado. Yeah, got champagne, better get it party.
persona tolerante. Bad girl, need a bad man.
Sabe Dante. Sabe Dante.
Mama go down low. Every time you see me dancing. Mama go down low.
Sembra por ser diamante.
Le ciappo le caninate, sembra che sono tre cantanti.
Siamo un po' gelosonde,
sembra un po' gelosonde. Hayate, hayate, hayate chi dai te pape. Buono le ciappone,
nelle vite le usanze.
Gal ciambonte, vedo che chi batte. Rana tollerante, attio agli da Batman.
Écoutez donc l'artiste Kida avec le titre Low et tout de suite la chronique de Hugo.
J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours.
Bonjour, comment ça va tout le monde? Aujourd'hui on parle boulot et on parle bien sûr boulot donc de mon équipe. Et dans cette équipe, laissez-moi vous présenter la dernière recrue fraîchement arrivée, Félix. Et oui. Alors Félix, salut. Il est en études de journalisme mais il est souvent à la bourre en même temps. Il est aussi barman chez SNCF donc c'est un peu dans son ADN. C'est un pro de l'interview. La dernière fois on recevait Pedro Canali pour parler gamification et Félix était complètement chamboulé.
Bonsoir Pedro Canali qu'on reçoit ce soir pour effectivement parler de gamification. Alors Pedro, laissez-moi vous introduire.
Eh oui, je vous laisse vous introduire, Pedro. Alors, on sent ce petit hésitant que Félix rame complètement. Alors voici l'introduction tant attendue.
À nos auditeurs, vous êtes un ancien professeur de salsa, ancien top 50 du poker français.
Et ancien acteur porno aussi, pas du tout. Et oui, comme un petit goût de petit porno 80s quand même, là, le petit prénom. En plus, je vous le donne en mille, Pedro, il s'appelait pas du tout Pedro, il s'appelait Pierre. Il a trouvé un petit alias sexy juste pour Félix. Et oui, Félix, c'était un peu l'atout charme et jeunesse de l'émission. Il a les cheveux bruns, il est un peu grand, je crois, un peu sexy, un regard ténébreux. C'est Félix. À l'animation, c'est différent. On la surnomme Tata pour son expérience de la vie. Elle a créé l'émission, mais croit à un management et un monde du travail plus sain. C'est la toute sagesse de l'émission, la bosse comme l'appelle Simon le réalisateur. Simon lui, c'est la toute tranquillité de l'émission. On s'éloigne de plus en plus de la jeunesse également, mais on retrouve une forme de sérénité. Si on lui demande si ça va, Simon il te répond « Ouais, ben moi, ça va ». Cette équipe biscornue, ça fait qu'on arrive à sortir ce petit truc d'une heure tous les mois. On espère que vous l'appréciez, on essaie de conseiller, d'apprendre, d'enseigner et de partager. Et comme le dit Francesca sur TikTok…
Stop de rester dans un groupe, que ce soit même ami, qui ne respecte pas.
Et oui, ici on se sent respecté, tout va bien. Félix, tu te sens respecté?
Ouais.
Pedro, revenez, vous manquez au petit jeune. On parle travail, c'est le sujet de l'émission. Et oui, parce que dans la vie, dans le monde, c'est un des endroits où on passe le plus de temps dans la semaine. Et si c'est pas un bon travail, bien sûr, on n'est pas heureux. Des mots simplistes pour décrire un truc assez vrai, que ce soit travail étudiant ou plus tard votre vrai boulot, faire un travail qui ne nous plaît pas, c'est horrible. Alors, je vais pas vous dire de bien vous appliquer dans vos études, mais simplement qu'il y a toujours une formation, des études à reprendre, quelque chose à faire pour arriver à trouver une voie dans laquelle on s'épanouit, comme Félix avec Pedro. Alors merci à tous et continuez de nous suivre à Contre-Taf.
Merci beaucoup Hugo. Et c'est la fin de cette émission incroyable, merci pour cette chronique. Alors merci à nos invités, merci Maximilien, merci beaucoup à Quentin Cherrier, merci Hugo, j'en peux plus. Merci beaucoup Félix pour la rubrique innovation et pour cette pépite. Simon à la réal, on revient le 24 février, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radiocampusparis.org pour écouter nos podcasts ou vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram à Contre-Taf. Très bonne soirée sur le 93.9 et à très vite.